c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. On les entend en ville, c'est étrange, les goélands, Bretagne vivante, nous expliquent et nous réconcilie avec eux.
LEM, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait planer au-dessus des plages du Finistère et aussi des villes. Eh bien oui, c'est ainsi, ce son-là. Ce son-là est donc aussi devenu un bruit de la ville, le cri du goéland. Alors, on connaît trois espèces de goélands en Bretagne. Le goéland argenté, c'est surtout de celui-là qu'on va parler. Le goéland brun, le goéland marin. Est-ce qu'on devrait ajouter le goéland urbain? Eh bien, notre invité va nous répondre. C'est Maxime Pinault qui travaille pour Bretagne Vivante, qui est chargé d'études oiseaux marins. Et comme il est loin, on a fait exceptionnellement cette interview à distance. Et il va nous parler aujourd'hui du goéland argenté en ville. Bonjour Maxime.
Bonjour Véronique.
Alors, est-ce qu'on peut faire un point rapide sur le mode de vie des goélands? Alors, on va surtout parler des goélands argentés, même si on verra après qu'il n'y a pas que. Mais comment ça se fait qu'on ait de plus en plus de goélands en ville?
Bon, alors déjà, c'est une constatation qui est avérée. Il y a de plus en plus de goélands urbains en France. Là, récemment, en 2020-2021, en France, on a eu... à partir de cette période-là, plus de goélands qui se reproduisent en ville qu'en milieu naturel.
Et comment ça se fait?
Alors, ça, cette évolution, elle est liée au fait déjà que aussi les populations en milieu naturel chutent fortement. Donc c'est un premier point, c'est que les sites naturels, on va dire, ne sont plus aussi qualitatifs qu'avant, parce que les goélands ne trouvent pas forcément à manger. Les goélands sont assez... ils mangent de tout, hein. Ce sont des omnivores, donc c'est assez surprenant de penser qu'ils ne trouvent pas assez à manger, mais sur les îlots, sur les îles où ils se reproduisent naturellement, y a un peu moins de poissons qui sont disponibles autour de ces îles-là. Il y a aussi eu des changements dans les pratiques de pêche, hein. Avant, il y avait quand même beaucoup plus de rejets, parce que beaucoup plus de pêche artisanale, beaucoup plus de petits pêcheurs. Et donc là, c'est en drastique diminution. Donc il y a ça aussi, ils ne peuvent plus bénéficier de cette manne-là. Et puis, il y a du dérangement aussi, de plus en plus sur les îlots, avec l'essor touristique. Il y a aussi des espèces invasives, comme le rat. Beaucoup de rats sur les îlots qui mangent les œufs, malheureusement. Donc voilà, ça fait partie, en fait, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui font que le milieu naturel se dégrade, et en parallèle de ça, le milieu urbain est quand même très attractif pour un goéland. Si on se met à la place d'un goéland, vous avez quand même à manger à foison, en ville, des déchets, sur les ports, il y a des gens qui vous nourrissent même, ça, c'est quand même encore plus simple pour s'alimenter, et puis surtout, il y a aussi des beaux toits parfaitement plats sur lesquels vous pouvez poser votre nid. Et vous êtes en sécurité, personne ne monte sur les toits ou quasiment, il n'y a pas de rats, c'est parfait.
Bon, il n'y a pas de rats. Ah oui, donc en fait, le goéland, on se dit, ouais, oui, si c'est un détritivore, s'il est menacé, entre guillemets, sur le littoral, c'est pas parce qu'on a plus de décharge littorale, enfin, on est en train de les enlever petit à petit, non, c'est pas ça, quoi.
Non, c'est... bien sûr, il va toujours manger dans les décharges, hein. On a des goélands qui vivent à Belle-Île-en-Mer et qui vont faire des dizaines de kilomètres chaque jour pour aller manger dans des décharges qui sont dans l'intérieur des terres, quoi, vers Pontivy, ils font beaucoup de chemin.
C'est ça. Et ce qu'il ne faut pas s'imaginer, c'est que c'est seulement les villes portuaires, côtières qui sont, habitées par les goélands.
Non, plus maintenant. Ouais. C'est vrai qu'au départ, bien sûr, ce sont les villes littorales qui ont été, habitées par les goélands à partir des années 70. Donc Lorient, Brest, des villes en Normandie également. Et puis maintenant, on observe des goélands qui se reproduisent à Rennes, à Pontivy. Donc des villes quand même qui sont assez loin du littoral, mais la raison c'est parce qu'ils ont trouvé à manger là-bas, puis finalement ils se sont dit pourquoi ne pas habiter juste à côté, ça nous fera moins de déplacements, et il y a des toits parfaitement plats aussi pour se reproduire, donc voilà. ils se sont attaqués aux villes intérieures.
Et quand ils sont en ville, on sait ce qu'ils mangent exactement ? Est-ce qu'on a fait des études là-dessus ?
Alors, il y a quelques... C'est plutôt de... Enfin, nous, de notre côté, à Bretagne-Vivante, c'est plutôt de l'expérience, on va dire. On trouve des pelotes de réjection. Les goélands font des pelotes de réjection. La plupart des oiseaux font des pelotes de réjection pour rejeter ce qu'ils ne peuvent pas digérer. Et du coup, on peut un peu détecter ce que les goélands peuvent manger. Donc, parfois, on va trouver des arêtes de poissons. On trouve aussi des coquilles de moules, par exemple, ou d'huîtres. On va aussi trouver des insectes. Les goélands sont assez friands d'insectes, donc c'est des bons auxiliaires de culture finalement pour l'agriculture. Et d'ailleurs, pour une anecdote, le goéland de Californie, précisément aux États-Unis, est devenu le symbole de l'Utah, d'un État des États-Unis, parce qu'en 1848, c'est très précis, il y a une nuée de goélands qui a mangé tous les criquets qui étaient en train de dévaster des cultures. Et donc, c'est grâce à ces goélands-là, ça a été documenté que finalement, les habitants ont pu avoir quand même suffisamment de nourriture pour l'année. Et donc, il est devenu un symbole de l'État de l'Utah.
Et quand il y a des goélands derrière les tracteurs, en fait, c'est pour manger des insectes. C'est pas pour...
Alors, ils mangent des insectes, ils mangent en fait tout ce que le tracteur va faire envoler. Et puis aussi, ils vont manger les vers de terre qui sont dans la terre qui a été retournée. Donc voilà. Et après, bien sûr, ils mangent des déchets hein, dans les décharges. Malheureusement, dans les pelotes de réjection, on retrouve aussi du plastique, des bouts de verre, des lacets. Enfin voilà, beaucoup de choses en fait qui sont vraiment très nocifs pour eux.
Et donc, ils ont choisi la ville par facilité, mais c'est pas forcément meilleur pour leur santé, en fait. Quoi.
Ah non, du tout, non. Effectivement, c'est par facilité, on va dire, à court terme, mais pour l'espèce ou même pour un individu sur plusieurs années, on peut s'attendre, bien sûr, à ce qu'avec du microplastique, de la pollution, finalement, ils aient des contaminants dans leur sang ou qu'ils s'étouffent à cause du plastique. Voilà, le risque est, bien sûr, majeur par rapport à une nourriture, on va dire, plus naturelle quand ils mangeaient du poisson ou des déchets sur la laisse de mer, quoi.
Ils sont quand même carnivores, strictement. Enfin, ils
non, ils sont omnivores, du coup. Hein. Ils peuvent manger aussi des céréales. On retrouve parfois des pelotes avec un peu de blé. Quand j'ai travaillé un peu aux États-Unis aussi, je voyais un goéland qui adorait les fruits rouges. Il mangeait des baies. Et il passait son temps à attraper les baies dans les ronciers, etc. Donc voilà, en fait, ils sont très opportunistes. Ils peuvent vraiment manger de tout.
Et alors, moi, je pensais que c'était que les goélands argentés qui avaient un prisme urbain, mais pas seulement, en fait.
Alors, historiquement, bien sûr, c'est les goélands argentés, mais on a aussi des goélands bruns et des goélands marins qui, de plus en plus, investissent les villes. Le chiffre qui est ressorti au dernier comptage national, c'était environ 15% des effectifs nationaux qui sont dans les villes pour les goélands bruns et les goélands marins, ce qui est quand même pas négligeable, quoi.
En effet. Quelles sont les politiques donc, qui sont menées ? Parce que bon, là, on constate quand même qu'ils n'ont plus tellement bonne presse, les goélands. Quelles sont les politiques urbaines qui sont menées pour réduire leurs effectifs en ville ?
Ouais, alors du coup, c'est depuis les années 90 que les villes ont voulu s'attaquer au problème des goélands en milieu urbain. Et la technique de gestion qui a été principalement mise en œuvre depuis, c'est la stérilisation des œufs. Donc la stérilisation des œufs, ça consiste en mettre une couche d'huile autour sur les œufs, d'asperger les œufs avec une couche d'huile qui vont étouffer l'œuf. Il n'y aura plus d'échange avec l'extérieur, donc il n'y aura plus d'échange d'oxygène, etc. Donc l'œuf va mourir. Et donc puisque l'œuf meurt, il n'y aura pas de poussins, et donc il y aura moins de bruit, les parents seront moins offensifs envers les gens. Et à la base, l'idée, c'était que puisque les goélands n'arrivent pas à se reproduire, ils n'ont pas de poussins, ils devraient partir. Ils devraient partir, retourner, on va dire, chez eux sur les îles et les îlots. Donc ça, c'était l'idée de base dans les années 90. Et bien sûr, c'était un peu une belle utopie. Hein. Les goélands, quand ils voient que leur nichée, leur couvée a échoué, là, ce qu'on constate, c'est qu'ils vont plutôt essayer d'aller sur un toit à quelques dizaines, quelques centaines de mètres et réessayer, donc toujours en ville finalement. Et donc malheureusement, ce type de pratique a plutôt diffusé les populations urbaines, alors qu'avant, on avait des cœurs de population souvent sur les zones portuaires, alors parfois plutôt sur les zones résidentielles comme à Brest, mais souvent sur les zones portuaires. Et bien maintenant, le cœur de population a éclaté Et donc, on a des goélands nicheurs sur les zones résidentielles, sur d'autres communes alentours. Donc, finalement, le problème, c'est diffusé, quoi.
Oui, on n'a pas évoqué très clairement les inconvénients. Il y a quand même des inconvénients à ce que les goélands soient en ville.
Oui, bien sûr. Alors, si vous avez... Donc, souvent, ce que les gens regrettent, c'est donc les déjections des goélands qui, quand ils ont un reposoir, on va dire, qui reste là la journée, et ben voilà, ils vont salir des voitures ou des immeubles. Ensuite, le deuxième point, c'est surtout pendant la période d'élevage des poussins, parce que là, les parents, en bons parents, vont protéger leurs poussins. Donc, si jamais, ben, en ville, c'est souvent le souci, c'est que quand il fait trop chaud, les poussins vont tomber par terre, parce qu'ils ont trop chaud sur le toit. Donc, ils tombent par terre pour chercher un peu de fraîcheur. Et donc là, si jamais c'est un trottoir ou c'est un jardin, les parents peuvent se montrer un peu, ils vont faire des vols d'intimidation. Donc, ils attaquent pas. Hein. Moi, j'ai côtoyé, je sais pas, là, ça fait 4-5 ans que je suis à Bretagne Vivante, j'ai dû côtoyer des milliers de goélands, je ne me suis jamais fait attaquer. Et pourtant, j'ai toujours été sur les îlots en présence de leurs poussins. Mais voilà, ce n'est pas de l'attaque, c'est de l'intimidation. Ils vont voler au-dessus de votre tête pour vous dire « n'approche pas de mon poussin, je suis dans le coin ». Voilà.
Et ils mangent les glaces des touristes aussi, parfois.
Alors voilà, comme je disais, il y a des individus qui sont très spécialisés. Moi, j'avais observé le goéland qui aime bien manger les baies. Il y en a d'autres qui adorent les cornets de glace, les crêpes et... les frites, voilà, shipper la bonne nourriture qu'il y a chez les humains. Et d'accord, il y a une étude qui a été faite en Angleterre pour savoir pourquoi les goélands visaient ce type de nourriture-là. Et ils ont remarqué simplement que c'était la nourriture que les humains mangeaient. Donc si vous mettez à manger des choux de Bruxelles ou du poireau, peut-être que les goélands vont s'attaquer à du poireau ou des choux de Bruxelles. Voilà, c'est du mimétisme.
Intéressant. On creusera enfin un jour peut-être une émission sur les relations plus personnelles entre les goélands, parce qu'il y a eu un goéland apprivoisé à Brest qui a été célèbre.
Oui.
Et justement, l'idée, alors Maxime Pinault, Bretagne Vivante, évidemment, nous explique pourquoi finalement les politiques de stérilisation sont inefficaces. Propose une autre approche, notamment redorer l'image du goéland, qui n'a pas toujours été une mauvaise image. Hein.
Oui, c'est ça, ouais. Donc là, voilà, c'est ce type de technique, comme la stérilisation, il y a aussi de l'effarouchement qui a été mis en place, ou alors des choses plus physiques, mettre des pointes sur les bâtiments, etc. Voilà, là, globalement, ça fait 30 ans que ça dure et ça ne marche pas beaucoup. C'est très coûteux aussi de stériliser des œufs. Ils font des gens qui font du travail en hauteur, donc ils vont aller stériliser les œufs à la main, etc. Donc c'est très coûteux pour un résultat qui va pas en fait résoudre les conflits entre humains et goélands. Et du coup, là, la constatation qu'on fait, nous, bah, c'est qu'ils ont, quand on regarde les articles de presse, quand on regarde les sites web des communes, il est présenté comme un nuisible, il n'a rien à faire en ville, il y en a de plus en plus, etc. etc. Donc tout ça, bien sûr, est faux. Et on se dit que si on ne rabâchait pas aux gens en permanence que ce sont des nuisibles qui n'ont rien à faire là, qu'ils sont méchants, blablabla, etc., les gens auraient un autre regard. Moi, je connais bien la ville de Lorient, où il y a une grosse population de goélands argentés, notamment. Il y a des sites très intéressants où les goélands se reproduisent, comme les toits de la base sous-marine sur le K3, etc., et qui sont utilisés comme site de visite pour le patrimoine. Mais en fait, quand on fait les visites du patrimoine, on voit les goélands en train de se reproduire, on voit... Voilà, comme une colonie naturelle, entre guillemets. Et ça, c'est une chance, en fait, parce que normalement, un goéland qui niche, qui se reproduit, on le voit que sur des îles qui sont assez peu inaccessibles. Finalement, il faut un bateau, c'est coûteux, c'est la plupart du temps interdit de façon de débarquer sur ces îles. Donc là, on peut voir à distance quand même importante des goélands se reproduire, élever leurs poussins. Donc ça fait quand même une reconnexion à la nature qui est relativement simple. Ces visites-là, en plus du patrimoine, sont gratuites. Enfin, c'est... Donc voilà, ça c'est juste un exemple, mais il y a plein de façons de montrer aux gens que c'est vraiment super intéressant de regarder ces goélands vivre leur vie de goéland sans que ce soit forcément des relations de « il m'a volé mes frites » ou « il a fait caca sur ma voiture ». Et puis là, on a été dans une école, par exemple à Port-Louis, où des goélands se reproduisent, ça peut être utilisé comme un moyen pédagogique. si vous mettez des caméras pour observer les goélands en permanence, observer des comportements de parents à poussins, ou bien voir ce qu'on appelle la phénologie, comment un œuf, combien de temps un œuf met pour éclore, etc. Enfin, ça fait une approche aux sciences naturelles qui est quand même assez, assez sympa, assez immersive, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a plein de moyens, j'ai l'impression, pour redorer cette image, et que les gens finalement ne le voient pas comme une contrainte, mais comme une opportunité.
Et puis ce sont des oiseaux très intelligents, enfin peut-être pas autant que les corvidés, mais je ne sais pas.
Alors ils sont assez peu étudiés pour leur intelligence, les goélands, malheureusement, mais il y a du gros potentiel, hein, quand on voit les stratégies qu'ils peuvent mettre en place. Bah, par exemple, si un goéland veut s'attaquer à une huître, il peut la lâcher en vol de bonne hauteur pour que l'huître éclate. Ça, c'est une forme d'utilisation d'outils, de proto-outils, on va dire, et ce que les corvidés font aussi avec des noix ou avec d'autres choses. Mais oui, malheureusement, le goéland n'est pas... voilà, c'est aussi peut-être un a priori qu'on a envers eux dans le monde de la recherche, c'est qu'ils sont plutôt considérés comme des, voilà, comme des individus, enfin, des espèces qu'on doit étudier pour plutôt un aspect gestion, on va dire, de l'environnement, plutôt que éthologique.
Oui, puis c'est des animaux sociaux aussi. Ils vivent en colonie, justement.
Oui, ils vivent en colonie, exactement. Donc ça demande quand même d'entretenir des relations sociales sur le long terme. Les goélands sont plutôt fidèles. Si, on va dire, ça se passe bien, qu'ils ont des petits, etc., ils peuvent rester en couple quand même plusieurs années. Et surtout, ils vivent longtemps. Un goéland, en moyenne, ça peut vivre entre 15 et 20 ans, on va dire, mais il y a des records de longévité qui vont jusqu'à 40-50 ans. Donc imaginez, quand vous vivez ce nombre d'années-là, et bien, il faut savoir qui sont vos amis, qui, au contraire, il faut se méfier. Donc ça demande quand même des capacités cognitives qui sont assez, assez poussées. Se souvenir des sites d'alimentation, pouvoir changer de site d'alimentation si jamais ils changent. Enfin voilà, c'est assez, ça demande des capacités assez importantes. Il y a des anecdotes sur l'alimentation, c'est l'aspect pour lequel ils sont le plus étudiés, où des gens se sont rendus compte en posant des GPS sur les goélands que, par exemple, ils allaient toujours à manger à une heure précise dans un endroit parce que ils savaient que c'était à ce moment-là qu'étaient sorties les poubelles, ou parce que c'était la récré et que c'était l'heure du goûter, ou parce que c'était au moment la fin du marché, donc c'était le moment pour venir chercher les rebuts. Donc voilà, ils sont assez précis quand même dans leur capacité.
Puis puisqu'on est à la radio, il faut dire aussi que les cris des goélands, c'est un monde aussi, c'est très varié, hein, les...
Oui, ils ont beaucoup, ils ont une palette vocale qui est assez impressionnante. C'est, ouais, pour communiquer entre eux, pour avertir de notre présence ou de la présence d'un prédateur, etc., etc. Mais ça, c'est malheureusement assez peu étudié. C'est étudié chez d'autres espèces, en effet, qui a des signatures vocales pour chaque comportement, chaque contexte. Mais chez les goélands, c'est assez peu étudié. Peut-être qu'ils ont des cris différents selon le type de prédation, c'est possible.
Alors, il y a des. En plus de redorer l'image du goéland urbain, il y a des possibilités. Enfin, Bretagne Vivante préconise aussi des possibilités d'aménagement urbain spécifique. Ça consiste en quoi ?
Alors, c'est vrai que la sensibiliser les habitants à pourquoi les goélands sont en ville, c'est quand même une phase hyper importante. Il y a d'autres moyens de, on va dire, limiter les conflits entre humains et goélands. Un des premiers points, c'est le mobilier urbain pour gérer les déchets. En fait, les goélands sont en ville parce qu'ils ont accès à ces déchets. Donc, une poubelle qui déborde parce qu'elle n'est pas adaptée aux besoins de l'habitant ou du restaurateur, c'est quelque chose qui est très simple à régler et qui va empêcher qu'il y ait des conflits directs entre les humains et les goélands. Ça, c'est un premier point. Il y a des poubelles anti-goélands qui existent en France, hein, qui ont été créées. Et qui peuvent être déployés dans les villes assez facilement, finalement. Après, d'un point de vue urbanisme, c'est prendre en compte divers aspects. Donc, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la chute des poussins des toits quand il fait trop chaud. Il existe des moyens de mettre des petites rambardes, en fait, sur les bords des toits pour que les poussins ne tombent pas au sol. Il est possible aussi de leur mettre des abris. Il y a des nichoirs à goélands qui sont en développement, qui leur permettent d'avoir de l'ombre pour se cacher du soleil. Donc en fait, tout ça permet de vivre avec eux, de cohabiter avec eux. Un des gros soucis aussi sur les toits plats, c'est l'évacuation des eaux. Les goélands font un nid chaque année, ils ramènent du matériel. Et ce matériel-là, quand il est lessivé par les pluies, ça peut boucher les canalisations, quoi. Ça peut boucher les évacuations d'eau. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut adapter finalement au bâtiment où on est sûr qu'il va y avoir des goélands qui vont se reproduire ici. Adapter le bâtiment à cette présence-là, parce que voilà, cette présence-là, elle est inéluctable. Hein. Ça fait 30 ans que les autorités, les municipalités essayent de les faire partir. Au contraire, c'est plutôt en augmentation. Donc voilà, il faut plutôt considérer leur présence et dès la construction du bâti, faire en sorte qu'il n'y aura pas de soucis a posteriori, quoi, après.
Et à part Lorient, est-ce qu'il y a des villes modèles sur la gestion des goélands urbains ? Pas
Alors,
forcément
Lorient,
en Bretagne.
Bretagne Vivante travaille avec eux depuis une vingtaine d'années sur ce sujet-là. Et donc l'année dernière a été fait un recensement à l'échelle de la ville. Il y avait aussi eu un recensement en 2020. Et on a convaincu la ville finalement et l'agglomération de changer de pratique. Donc là, c'est un processus qui est en cours, de stopper la stérilisation et de passer à les autres mesures de gestion que j'ai évoquées. Donc c'est un travail qui est en cours. J'espère qu'il aboutira l'année prochaine. D'autres villes sont des modèles, on va dire, en termes de nouvelle gestion, puisqu'elles ont arrêté la stérilisation. On peut parler de Concarneau, par exemple. Il y a eu Douarnenez qui a fait ça depuis 2024. Il y a des villes en Normandie, comme Granville, par exemple. Donc voilà, il y a quelques villes. Alors, c'est très, très peu par rapport au nombre de villes qui hébergent des goélands. Mais il y a quelques villes qui ont franchi le pas. Et une des raisons principales, c'est parce que c'est inefficace et très coûteux. Et du coup, quand on sait cette chose-là, et quand surtout les habitants savent cette chose-là, c'est-à-dire ça ne fonctionne plus pour eux, quoi. Ils savent très bien que malgré que quelqu'un va venir stériliser les œufs sur leur immeuble, etc., finalement, dans quelques années, le problème va revenir. Donc, c'est une méthode de gestion qui ne fonctionne pas. Et voilà, il y a quelques villes qu'on franchit pas. On espère que ça va être plus général. En tout cas, Bretagne Vivante va prendre un positionnement là dans les prochains jours pour appeler finalement à ces changements de gestion-là, en lien avec l'inefficacité des pratiques, mais surtout en lien avec la chute des populations de goélands observées en milieu naturel. Donc, voilà.
Et Bretagne Vivante n'a pas de programme d'études spécifique sur le goéland urbain, justement, en termes de comportement ou...
Alors, sur le goéland urbain spécifiquement, on travaille avec Lorient, avec Brest, avec d'autres villes pour faire des suivis. À Lorient, on a notamment des colonies témoins où on va compter les nicheurs chaque année pour voir s'il y a des évolutions. On leur met des bagues aussi, on leur met des bagues aux oiseaux pour savoir si on va les retrouver d'une année à l'autre, s'ils vont migrer d'une ville à l'autre. On a par exemple le cas d'un goéland qui est né sur un toit à Lorient et qui se reproduit maintenant à Brest. Et qui a des très beaux poussins. Donc voilà, il a fait un chemin de ville en ville pour se reproduire. Donc on a des programmes comme ça ponctuels selon les villes. Et après, il y a un programme qui s'appelle La Russe, qui est un programme de bagages, d'équipement, de GPS aussi. On étudie de plus en plus le comportement des oiseaux, non pas de manière directe, mais en leur mettant des GPS qui nous permettent de les suivre à travers les mers, de suivre leur migration, donc des choses qu'on ne peut pas observer directement.
Un dernier message, Maxime Pinault, sur le goéland urbain.
aimez les goélands. Prenez le temps de les observer, surtout. Je pense que quand on arrive à les observer, on va dire, avec leur comportement un peu naturel, ils sont vraiment magnifiques, surtout quand ils donnent à manger à leurs poussins. Enfin, voilà, c'est juste ça. Je pense que ça suffit pour se reconnecter un peu avec eux, quoi.
Merci beaucoup Maxime Pinault de nous avoir réconciliés avec les goélands urbains et on retrouvera Bretagne Vivante prochainement dans un mois sur un autre sujet. À bientôt, au revoir.
Au revoir.